Yofi, Erev Tov les Koulam, Erev Tov. Donc, alors attends, voilà. Erev Tov, donc c'est une soirée un petit peu particulière. Notre cours n'a pas lieu jeudi, on est lundi soir. Et c'est une soirée très particulière parce que notre cours va être dédié à cette journée, alors qui a déjà commencé pour nous en Israël, qui va commencer pour vous aux États-Unis d'ici quelques heures, le jour de Yom HaShoah. Et alors, je me suis beaucoup posé la question, à quoi devait ressembler le cours de ce soir ? Est-ce que ça devait être un cours de Torah classique ou pas ? La vérité, la décision a été prise il y a, je vais te dire très honnêtement, il y a à peu près, je sais pas, 15 minutes, 20 minutes, j'étais... Oh, ouais, vas-y. C'est pour ça. Alors, attention, pas... Alors, non, ben justement, parce que d'habitude, je prépare les cours en avance, et donc le cours est prêt, et c'est un vrai cours avec plein de sources, tout ça. Et... Ça fait maintenant enfin, près de 2 heures que j'étais en Zoom, dans un autre Zoom, où en fait, on a fait une cérémonie avec tous les guides avec lesquels j'ai l'habitude de travailler le jour de Yom HaShoah en Pologne. Parce que d'habitude, je participe à la marche des vivants. Et vu qu'on est tous confinés chez nous, eh bien, on s'est fait notre cérémonie entre nous. Et au fur et à mesure des discussions que j'ai eues avec eux pendant ces 2 dernières heures, je me suis dit que le cours de ce soir devait être différent. Alors, juste pour ceux que ça intéresse, je vous transférerai le lien d'un autre cours que j'avais donné il y a quelques, je crois, 2-3 ans à Givat Shmuel en Israël. Et ce cours avait été filmé sur Yom HaShoah, 1h30 de Shiur Torah. Donc, je vous le transférerai, comme ça, vous pourrez aussi l'écouter si vous voulez. Un pur Shiur uniquement de Torah, mais ce n'est pas ce qu'on va faire ce soir. D'ailleurs, je lance un petit pic à mes amis de Givat Shmuel en disant à mes amis de New York que si un jour ça vous venait de vouloir prendre la décision de faire un voyage de la mémoire en Pologne, eh bien on pourrait l'organiser avec plaisir vu que ça fait des années que j'essaie de le faire avec Givat Shmuel mais que ça marche pas. Alors les amis, sans plus attendre, on va rentrer dans notre étude de ce soir, dans Yom HaShoah. Et pour commencer le shiur, eh bien, je voudrais vous faire partager un moment absolument incroyable. Un moment absolument incroyable qui va être le départ de ce que j'ai envie de vous dire. D'abord, bonjour, je m'appelle Ethan Fison. C'est bon. Alors, je me présente Ethan Fison. Pourquoi ? Bah parce que ce n'est pas le Rav qui parle ce soir. Ce soir, c'est le petit-fils qui parle. Ma grand-mère, comme beaucoup d'autres grand-mères, a été déportée à Auschwitz. Elle est revenue des camps, Baruch HaShem, mais une grande partie de qui je suis, eh bien, m'a été léguée par l'héritage de ma grand-mère, de mamie Sabine, mais pas que de mamie Sabine qui a été déportée à Auschwitz, mais de mamie Alice qui s'est cachée pendant toute la guerre, et de mes grands-pères paternels et maternels qui chacun à leur façon ont réussi à traverser au milieu de la Shoah. Mon grand-père était aux EI, faisait partie des résistants des EI, des scouts juifs en France. Autant vous dire que je suis un petit-fils de déporté et j'ai grandi avec la Shoah au biberon. Je me rappellerai très certainement très très longtemps avoir demandé un jour à ma grand-mère pourquoi est-ce qu'elle s'était marqué son numéro de téléphone sur le bras. Et elle m'a juste répondu que pour un numéro de téléphone, il y avait plus de chiffres. Plus tard, j'ai compris un petit peu de quoi il s'agissait. Donc voilà, je me présente devant vous avec cette humilité de petit-fils qui va essayer maintenant que ma grand-mère, alors j'ai une grand-mère qui est toujours là, Baruch HaShem, mais ma grand-mère, mamie Sabine, n'est plus là. Et je voudrais savoir quel est mon rôle en ce Yom HaShoah après que mamie soit partie et après que tant de rescapés soient partis. Quel est notre rôle dans un Yom HaShoah en 2020 ? Alors, quel est mon rôle dans tout cela ? Eh bien, je vais vous dire, il y a une très, très grande différence entre parler de la Shoah et comprendre quelle est la dimension de Yom HaShoah. C'est deux dimensions fondamentalement différentes. Quand on pose une question très simple. Pourquoi ? Pourquoi il y a eu tout ça ? C'est une question qu'il y a sur toutes les lèvres. Mais est-ce qu'on a véritablement le droit de se la poser ? Alors, je voudrais commencer ce soir en vous racontant une anecdote qui est devenue pour moi un chiour. Une anecdote de vie qui est devenue un chiour. C'était mon avant-dernier voyage à Auschwitz. C'était fin janvier, à la toute fin du mois de janvier. On était juste... Voilà, exactement, 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 exactement. De la Pologne, je suis arrivé à New York, exactement. Et alors, on était juste après les grandes commémorations du 27 janvier. C'était une grande commémoration avec des officiels, tout ça. Et donc, ils avaient mis en place un énorme chapiteau à l'entrée de Auschwitz-Birkenau et beaucoup d'endroits qu'on avait l'habitude de visiter étaient fermés. Et donc, j'étais obligé de repenser mon circuit d'une autre façon, parce que ce que j'avais l'habitude ou ce que je voulais faire, ben, je n'aurais pas pu le faire. Et donc, je prends un autre chemin, et au détour de cet autre chemin, nous allons faire la rencontre d'une dame extraordinaire. On n'aurait pas dû la rencontrer si jamais j'avais suivi mon chemin habituel. Mais là, on l'a rencontrée. Certains diront que c'est le hasard, d'autres diront... Mais en tout cas, nous arrivons, je suis avec un groupe d'une école de Paris, une école de jeunes filles qui ont 17 ans, 16 ans, 17 ans en première, et nous sommes interpellés par le récit d'une dame qui est interviewée, qui parle en polonais, mais qui est tellement, tellement criante de sincérité et de vérité qu'on est obligé de l'entourer et d'écouter ce qu'elle dit. Finalement, son fils nous dit de nous approcher encore plus et demande à sa mère de parler en hébreu. Comme ça, on pourra comprendre. Il ne savait pas que les filles avec qui j'étais parlaient en français, mais j'ai pu leur traduire parce que du polonais, c'était un petit peu compliqué, mais de l'hébreu, c'était beaucoup plus facile. Et elle nous raconte son histoire. Et elle nous raconte, et je vais pas, on est resté près d'une heure avec elle, je vais pas vous raconter tout ce qu'elle nous a dit, mais simplement une chose. Elle nous raconte une histoire terrible que, enfin, toutes les personnes du camp qu'elle a pu se rappeler, un jour ont assisté à l'exécution en public d'un jeune homme. Elle ne sait pas ce qu'il a fait. Personne ne sait ce qu'il a fait, mais il a été torturé et massacré devant les autres, certainement pour faire un exemple. Tout le monde a encore les images de ce qu'ils ont vu quand ils doivent rentrer dans les baraquements. Seulement, ce soir-là, après quelques heures seulement après l'exécution, eh bien, ce soir-là, c'est Shabbat. D'ailleurs, cette dame extraordinaire va nous dire, et peut-être que ce n'était pas Shabbat, mais je ne m'en rappelle pas, mais pour moi, c'était Shabbat. Et elle raconte que dans le baraquement, eh bien, elle se dit, on va faire Shabbat. Comment est-ce qu'on va faire Shabbat? Eh bien, tout simplement, elle commence à raconter comment elle mangeait à Shabbat avant à Varsovie. Et elle nous raconte son menu. Elle dit, voilà ce que j'ai raconté dans le baraquement. On commençait, on s'asseyait, on chantait, puis après on mangeait comme ça et on mangeait comme ci. Et puis j'étais jeune, et puis je me rappelle que mon papa, il me disait tout le temps de ne pas manger avec les doigts, il fallait manger proprement. Mais moi, je savais que c'était meilleur quand je mangeais avec les doigts. Et elle nous raconte que cette nuit-là, cette soir-là, quand elle a raconté son histoire, une dame était assise à côté d'elle. Elle était en larmes depuis le début du récit jusqu'à la fin. Et cette dame, à la fin, lui dit « Vous savez, je ne suis pas juive. » Cette dame se trouvait être juive. Elle était la petite fille d'une juive. Mais pour elle, elle ne savait bien que sa grand-mère maternelle était juive. Mais elle ne savait pas que ça voulait dire qu'elle aussi était juive. Elle avait grandi comme une chrétienne. Et elle dit à cette dame dont je vous parle maintenant, elle dit... Je voudrais vous remercier car grâce à vous, vous m'avez fait vivre mon premier Shabbat. Cette dame dont je vous parle s'appelle Rouhama. Pour être exact, elle a un nom un petit peu plus difficile à couper au couteau. Elle s'appelle Rouhama Chetsinski. Chetsimski. Chetsimski. Mais t'en fais pas, Harry, j'ai pensé à toi, parce que son fils qui était là nous a dit « Non, mais si vous voulez regarder sur Internet, c'est un autre nom qu'il faut taper. » Car elle a un autre nom. Elle s'appelle également Rachel Ross. En fait, Rachel, c'était son deuxième prénom. Elle s'appelait Rouhama Rochel. Et quand elle s'est mariée plus tard, après la guerre avec un monsieur Ross, alors elle est devenue Rachel Ross. Cette dame a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle « Ici, il n'y a pas de pourquoi ». Et ça me ramène à la question que je vous posais. Est-ce qu'on doit se poser cette question « Lama ? Pourquoi il y a eu tout ça ?» La réponse à cette question est évidente, non. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas et je ne saurais pas pourquoi ça s'est passé. Donc la question n'est pas la main. Mais la vraie question pour moi, c'est les mains. C'est-à-dire, en français, la question n'est pas « pourquoi ?», mais la question est « pour quoi ?», en vue de quoi ? Comme me disait ma grand-mère, on ne va pas se poser la question « pourquoi il y a eu la Shoah ?» Il y a eu la Shoah, c'est comme ça. Maintenant, la question, c'est « Et maintenant, on fait quoi ?» Avec cette question de l'EMA, eh bien, je voudrais qu'on avance un tout petit peu plus. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Eh bien, il y a, à mon sens, deux façons de réagir par rapport à la Shoah, le jour de Yom HaShoah, mais en fait toute l'année. La question est, est-ce que lorsqu'on arrive et qu'on parle de la Shoah, est-ce qu'on parle au passé ou est-ce qu'on parle au futur? Je voudrais simplement prévenir avant que je continue ma prochaine phrase que tout ce que je vais dire ce soir et tout ce que j'aurais dit dans le cours que je vais vous envoyer également, et je le redirai, enfin je l'ai dit dans ce cours là-bas que je vous envoie, tout ce que je vais dire, pour celui qui vit aujourd'hui la Shoah comme étant une plaie ouverte, eh bien tout ce que je vais dire n'est pas légitime. Tout ce que je vais dire est faux pour lui. Parce que celui qui vit la Shoah comme une plaie ouverte, eh bien pour lui, ce n'est pas le moment de la parole, c'est le moment du silence. Comme on a vu dans la paracha de cette semaine, lorsque Aharon vient de perdre ses deux enfants, Nadav et Avihu, eh bien on nous dit « Vayidom Aharon ». Aharon s'est tu, parce qu'à ce moment-là, il n'y a rien à dire. Donc, vivre la Shoah comme une plaie ouverte, ça ne dépend pas si tu es un rescapé ou pas un rescapé. Ça n'a rien à voir. C'est très personnel. Prenez dans ma famille, par exemple. Avec mon père, on peut avoir des discussions sur la Shoah. Avec ma mère, on ne peut pas. Donc, disons qu'on parle, que je parle à des gens qui peuvent entendre ce que j'ai envie de dire, et ceux qui ne sont pas encore prêts à entendre, eh bien, c'est Beseder Gamour. Donc, on parlait de cette dimension de passé ou futur. Est-ce que vous avez déjà assisté à une cérémonie du souvenir de la Shoah, de Yom HaShoah, que ce soit à New York ou au mémorial? Je sais que ma tante habite à New York et elle travaille au mémorial de la Shoah à New York. Donc, est-ce que vous avez déjà assisté à une cérémonie comme celle-là? Bon, j'imagine que vous avez déjà vu ce genre de cérémonie. On va dire que le ton de la cérémonie, en général, c'est pas vraiment la simcha. Et vous imaginez que les cérémonies de commémoration le jour de Yom HaShoah à Auschwitz, bon, pas cette année parce que Corona, mais normalement, bah pareil, ce sont des cérémonies très, très solennelles. Imaginez Yom HaShoah, Auschwitz. Mettez-vous l'ambiance. La marche des vivants, des milliers de personnes ont marché 3 km du camp de Auschwitz 1 jusqu'à Birkenau. Les cérémonies officielles ont déjà commencé. Le groupe du Rav Lao et des officiels sont arrivés en premier et les derniers groupes sont en train seulement de rentrer dans le camp. Cette année-là, les derniers groupes à rentrer dans le camp de Birkenau étaient le groupe des francophones. Alors, il y avait à peu près une dizaine de groupes de francophones. Personnellement, j'étais avec le tout dernier groupe qui participait à cette marche avec une école de Strasbourg et j'étais le dernier groupe. Et donc, il y avait avec moi également le responsable de tous les francophones qui fermait la marche. Lorsque nous rentrons dans le camp, j'avais prévenu mon groupe, très solennel, tout ça. On rentre dans le camp et tout d'un coup, une dame qui faisait partie de l'organisation générale de tout l'événement vient le trouver en panique en disant « Mais qui est le responsable des Français ? Qui est le responsable des Français ?» Alors, il dit, moi, qu'est-ce qui se passe? Et là, pendant 10 minutes, elle dit, c'est un scandale dans toutes les langues. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, il y avait le premier groupe des francophones. Il est donc rentré, je ne sais pas, 10 minutes avant nous. Alors, Harry, c'est pas du tout personnel, mais imagine-toi que ce groupe-là, c'était le groupe des Marocains du Maroc. Ils sont arrivés. Ils étaient plus préparés que la majorité des autres groupes. Ils avaient fait un travail incroyable de préparation en amont. Et quand ils sont arrivés dans le camp, bon, laisse tomber le fait qu'ils ne comprenaient rien à ce que les cérémonies elles disaient en anglais. Ça, c'était un autre problème. Ils rentrent dans le camp et là, ils se sont assis en cercle. Ils ont sorti tout ce qui était sortable en termes de manger et boissons alcoolisées. Et ils ont commencé à chanter et ils ont commencé à boire et ils ont commencé à… une simra incroyable. Tous les responsables ashkénazes sont venus donc nous voir en disant « C'est un scandale, vous ne respectez rien !» Vous savez, chez nous, les ashkénazim, on a un problème avec la simcha. Lorsque j'appelle ma grand-mère avant Shabbat, pour lui souhaiter Shabbat Shalom, et qu'elle me demande comment ça va, dès que je lui dis tout va bien, eh bien elle me répond ne t'en fais pas, ça va passer. Donc, on a un petit problème avec ça. Mais en tout cas, lorsqu'ils sont venus voir donc, ces Marocains, ils étaient accompagnés par un des rabbins de la communauté là-bas. Et le rabbin, c'est... Donc, tout le monde a dit, ah, mais c'est un scandale, c'est un scandale. Et le rabbin s'est levé et il a dit, mais comment ça, c'est un scandale? Ici, c'est le plus grand de tous les kivrei tzadikim. Il n'y a que des kdoshim ici. Il faut faire leur iloula. Et c'est ça toute la différence. Vous savez, quand on veut parler de commémoration pour quelqu'un qui est parti, il y a deux termes. On peut soit utiliser le terme « askara », on fait la « askara », ou alors on fait la « iloula ». Azkara, c'est l'iskor, se rappeler de ce qui était. C'est un travail sur le passé. Iloula, c'est la halot, faire l'avenir. Alors vous allez me dire, oui, mais on ne peut pas ne pas regarder vers le passé. On est obligé de regarder vers ce qui s'est passé. Et je réponds, oui, on doit savoir tout ce qui s'est passé. Et il faut apprendre un maximum. Si un jour on fait notre voyage en Pologne, eh bien, on ne parlera que de ce qui s'est passé. Mais il faut être conscient aussi qu'on n'est plus là-bas, qu'on n'est plus dans le passé. Vous savez, une des questions les plus importantes qu'on m'ait posées sur, dans tous les voyages que j'ai pu faire, c'était « Est-ce que la Shoah pourra revenir ?» Et ma réponse est très claire. Ma réponse est très claire, elle n'est pas basée sur une réflexion géopolitique, mais elle est basée sur une raison purement toranique. Non, il n'y aura plus jamais la Shoah. Comprenez-moi bien. La Shoah n'est absolument pas une nécessité de l'histoire. La Shoah n'a pas été prophétisée dans la Torah comme étant quelque chose qui va forcément se produire. Par contre, la Shoah, c'est une éventualité. Et dans la Torah, eh bien, on nous explique clairement qu'il y a des moments qui sont des moments où la Shoah est possible. Vous connaissez bien ce verset qu'on a lu juste avant Pourim dans la paracha de Zachor, qui nous dit « Zachor asher asa lecha Amalek » Baderech betsetrem mimitzrayim. Alors justement, pas tellement Living Egypt, et là, le truc le plus important, c'est Baderech betsetrem mimitzrayim, on the way. Voilà. Pourquoi je dis cela? Pour une raison très simple. D'abord, Amalek, vous avez bien compris que c'est le langage toranique pour parler de tous ceux qui voudraient exterminer le peuple juif. lorsque nous sommes en Égypte, Amalek ne peut rien contre nous, car nous sommes les Juifs de Pharaon. C'est Pharaon qui nous persécute, mais il ne veut pas nous massacrer, il a trop besoin de nous. Lorsque nous sommes déjà en Israël, arrivés à bon port, eh bien, j'ai envie de te dire qu'Amalek essaye de nous faire quelque chose. On va l'éclater. Voilà, c'est ça. Aval baderech, quand on n'est plus là et pas encore là, comme on dit en arabe, nishtahin, nishtaher, ou comme on dit en yiddish, avoir le tuchus entre deux chaises, à ce moment-là, eh bien, il y a un danger. De quoi je parle ? À chaque fois dans l'histoire du peuple juif, qu'on est sorti d'exil, et avant d'arriver à la porte de la Géoula, en chemin, il y a eu ce danger d'extermination du peuple juif. La première fois, lorsque Yaakov, qui est pour l'instant le peuple juif en potentiel, est parti de chez Lavan, il est sorti de la maison blanche de Lavan, mais il n'est pas encore rentré chez Yitzhak en Israël, et bien en chemin, Esav arrive avec ses 400 hommes et veut le massacrer. Et Baruch HaShem, on s'en est sorti. La deuxième fois, c'est la sortie d'Égypte. On n'est plus chez Pharaon. On n'est pas encore rentré en Israël avec Yehoshua. Va y avoir Amalek. Alors, pour répondre à la question de Ilan, non, je ne parle pas d'Eliphaz, ça c'est au moment où Yaakov part chez Lavan. Tu as raison que c'est aussi un cas. Moi, je parle du moment où Yaakov revient de chez Lavan. Bien fait. Donc, maintenant, on a vu le premier, le deuxième, le troisième temps, c'est lorsque on a reçu la permission de l'Empire perse de sortir de Babylone et de Perse avec le roi Koresh. Nous avons reçu la permission de rentrer en Israël. On est avant la reconstruction du Beth Amikdash de Ezra et de Nehemia, au milieu, Aman, Purim, qui veut nous massacrer. Et il en va de même dans notre génération. Les nations ont mis fin à notre exil. Lorsqu'en 1917, il y a eu la déclaration Balfour. Lorsqu'en 1920, à San Remo, la SDN, la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, va signer la déclaration Balfour. Ils nous disent, les Juifs, vous pouvez rentrer en Israël. Nous sommes avant 1948 et la déclaration d'indépendance. Eh bien, on sait ce qu'il y a eu entre les deux. En d'autres termes, Zachor asher asalecha amalek baderech. Mais nous ne sommes plus baderech. Baruch Hashem, depuis 72 ans, on n'est plus baderech. Donc, je n'ai pas peur qu'il y ait une autre Shoah qui vienne. Donc la question, est-ce que maintenant, mon rôle est de me rappeler simplement du passé, de remémorer le passé dans l'objectif de ne pas retomber dans les mêmes erreurs du passé ou dans les mêmes problèmes du passé, ou est-ce que maintenant je dois me concentrer sur, grâce au passé, suite au passé, apprendre à construire l'avenir ? Ouais, moi aussi j'ai... Je disais donc, je reprends la phrase, est-ce que donc maintenant notre rôle est de se concentrer sur le passé, comme on fait quand on veut ne pas retomber dans les mêmes erreurs que le passé, ou est-ce qu'au contraire, maintenant il est temps d'utiliser le passé pour construire notre avenir ? Vous savez, un des moments les plus forts que j'ai vécu quand j'étais là-bas sur ces terres de Pologne, c'est lorsque j'ai entendu le discours incroyable du Rav Israël Meir Lao, un de ses discours. Vous savez, le Rav Lao était le petit enfant de Buchenwald, l'enfant de la Shoah, qui non seulement a survécu et non seulement est devenu rabbin, mais il est devenu le grand rabbin d'Israël. Eh bien, le Rav Lao nous raconte une histoire. Nous sommes en novembre 1944. À ce moment-là, la déportation des Juifs de Hongrie bat son plein. À ce moment-là, il n'y a plus de sélection à Auschwitz, ce n'est plus un camp de travail. Tous ceux qui arrivent vont à la mort. Un convoi arrive le dimanche soir de Hongrie. Normalement, tout le monde devrait aller à la chambre à gaz, mais quand ils arrivent, eh bien, les chambres à gaz sont en panne. Donc on les met dans des baraquements disponibles. Et dans un de ces baraquements où vont être mis des Juifs de Hongrie, eh bien la moitié du baraquement est occupée par d'autres Juifs de Salonique, en Grèce. Le lundi matin, tout le monde commence à se regarder les uns les autres. Et personne ne se parle. Tout le monde a peur de l'autre. Les Juifs de Hongrie voient ces gens-là en face d'eux et sont persuadés qu'ils ne sont pas juifs. Pour eux, c'est quoi un juif ? C'est quelqu'un qui est blanc de peau, qui a une barbe, qui parle en yiddish et qui n'a pas le sens de l'humour. Et tout d'un coup, ils voient des gens qui sont bronzés avec une moustache et qui parlent avec les mains. Ils disent, ça, c'est pas des juifs, ça. Les juifs de Salonique, pour eux, un juif, c'est quelqu'un qui est bronzé, qui a une moustache, qui parle avec les mains. Et tout d'un coup, il voit arriver des gens comme ça qui sont tout blancs, qui ont des barbes, qui n'ont pas le sens de l'humour et qui parlent allemand. Eh oui, le yiddish, ça ressemble quand même à l'allemand. Ils doivent se dire que ce sont des nazis de confession israélite. Personne ne se parle le lundi. Personne ne se parlera non plus le mardi, le mercredi non plus, et le jeudi encore moins. Et vendredi soir, d'un côté et de l'autre du baraquement, chacun va entendre et reconnaître avec des airs différents qu'ils ne connaissent pas, mais ils vont pourtant reconnaître les mots de l'Echadodi. À ce moment-là, ils se rendent compte qu'ils sont tous juifs. Ils vont se tomber dans les bras les uns des autres. Et le lendemain matin, Shabbat matin, ils iront tout le baraquement ensemble à la chambre à gaz. Et le Rav Lao, à ce moment-là, en larmes, nous dit que dans la Shoah, le peuple juif a montré qu'il était capable de mourir ensemble. Et il nous jette à nous un regard en nous disant, maintenant, quelques années plus tard, le rôle du peuple juif est de capable de montrer qu'il peut vivre ensemble. Et c'est exactement de cela qu'on parle. Azkara face à Iloula. L'objectif aujourd'hui n'est pas l'ama, l'objectif c'est l'ema. Qu'est-ce que je vais faire maintenant avec toute cette histoire ? Alors il y a plusieurs options. Je peux dire, cette histoire a complètement détruit mon identité juive. À tel point que certains diront, à la question « Est-ce que tu crois en Dieu ?» ils répondront, comme ma grand-mère m'avait répondu quand je lui ai demandé cette question-là. Elle m'a dit « Dieu, après tout ce qu'il nous a fait ?» À ce moment-là, j'étais jeune, alors je lui ai dit, mais attends, si c'est lui qui t'a fait, alors tu crois en lui. Il m'a dit, tu comprendras plus tard. Il y en a qui ont dit, on va tout rejeter. On ne veut plus se rappeler de cela. On veut essayer de cacher notre identité au maximum. J'en avais parlé quand on a fait notre cours, je crois, sur Pessah, de Emil Fakenheim et son 614e commandement. On n'a pas le droit de lâcher son identité, justement à cause de ce qui s'est passé. Et donc, il y a une autre façon de réagir. L'autre façon de réagir, on la connaît, elle est très très répandue dans le monde, dans certaines personnes dans le monde ashkénaze, c'est de concentrer notre identité sur le souvenir, le souvenir, le souvenir. Mais le problème, c'est que se concentrer sur le passé, eh bien, ne peut pas nous aider à construire notre avenir. On doit connaître notre passé pour pouvoir construire notre avenir. Nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Dame Ein Bata, ou le Anata Olech. Sache d'où tu viens, mais n'oublie pas la deuxième partie. Et sache où tu vas. En d'autres termes, aujourd'hui, notre rôle est d'essayer d'apporter la véritable réponse à cette question très simple. Mais c'est quoi la Shoah ? Ça veut dire quoi la Shoah ? D'ailleurs, je vous pose cette question. Ça veut dire quoi le mot Shoah ? Je ne parle pas de qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est fondamental de le savoir. Et pour ça, eh bien, il faut apprendre, lire des témoignages. On est obligé de savoir. Mais ça ne nous explique pas ce que veut dire le mot Shoah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mot Shoah ? Alors, on peut entendre plein de choses. Les gens vont dire catastrophe. Les gens vont dire destruction. Les gens vont même aller jusqu'à dire, c'est votre mot préféré aux États-Unis. Je suis vraiment désolé, mais je déteste quand les gens traduisent la Shoah par le mot Holocaust. Pourquoi est-ce que je suis complètement contre le mot holocauste ? Parce que holocauste, c'est korban ola. Ça voudrait dire que tous nos frères et sœurs, pères et mères, fils et filles qui ont été massacrés étaient des sacrifices. Non, c'est pas comme ça que ça marche, les sacrifices dans le judaïsme. Le mot Shoah n'a pas été inventé ni par Yad Vashem, ni par le mémorial de la Shoah, pas du tout. Le mot Shoah vient du Tanakh. Par exemple, il apparaît trois fois dans le Tanakh, dans le livre de Tehilim, par exemple. Au Tehilim, Lamed Hei, au verset Chet. Chet, 8. Nous dit le Tanakh ici, le verset, David HaMelech nous dit, Tevoeu Shoah, lo yeda, verishto asher taman tilkedo ba Shoah, yipol ba. On ne sait pas ce que ça veut dire, même dans le verset, on te dit, on ne sait pas ce que c'est que la Shoah. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas ce que veut dire un mot dans le Tanakh ? Eh bien, on va voir le traducteur. Donc, avant Ari, il y a eu le prédécesseur de Ari. C'était qui le prédécesseur de Ari ? C'était Rashi. Ça termine pareil. Pas mal ? Ben voilà. Et donc, Rashi, il a commenté toute la Torah, mais il commente aussi Tehilim. Et lorsqu'il arrive au mot Shoah, eh bien, il essaye de l'expliquer, de le traduire, de nous faire comprendre ce que ça veut dire. Seulement, Rashi, quand il n'arrive pas à expliquer quelque chose en hébreu, eh bien, il l'explique en ancien français. Oui, car Rashi venait de France. Rashi avait un métier. Il faisait du vin. Voilà, tous les stéréotypes de la France en un personnage. Du bon vin. Et que dit Rashi quand il parle du mot Shoah ? Eh bien, il dit Rashi, ça veut dire broyana. Broyana, ça veut dire en français normal brouillard. En d'autres termes, la Shoah nous amène dans le brouillard, c'est-à-dire quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas à distinguer quoi que ce soit. Notre rôle à nous, notre rôle après 70 ans, est d'essayer de dissiper le brouillard pour commencer à y voir plus clair. Notre rôle est donc d'essayer de comprendre l'EMA. Qu'est-ce que moi, je vais pouvoir maintenant apporter pour aider à dissiper ce brouillard? Chacun d'entre nous doit se poser cette question. Comment est-ce que moi, avec toute la connaissance de ce qui s'est passé, eh bien, je vais faire avancer l'histoire du peuple juif. Je vais faire avancer l'histoire du monde, car la Shoah n'est pas qu'un problème juif, mais c'est un problème du monde entier. Comment est-ce que moi, je vais encore plus réussir à dévoiler Akadosh Baruch Hu dans cette histoire-là? Et enfin, comment est-ce que je vais réussir à aider au dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde? Eh bien, une réponse m'a été donnée comme un coup de fouet par une dame absolument extraordinaire. Alors, la première que j'ai citée en début de cours, c'était Rachel Rawls qui a dit « Ici, il n'y a pas de lama ». Elle nous a expliqué qu'il n'y avait qu'un lema. Ça, c'est ce qu'on a compris. Mais une dernière dame que j'aimerais évoquer aujourd'hui. Cette dame, elle s'appelle Perla. Elle s'appelle Perla, mais avant de vous parler de Perla, il faut que je vous parle d'une autre dame. Il faut que je vous parle de Dina. Dina, elle arrive à Auschwitz en 1943. Et lorsqu'elle arrive à Auschwitz en 1943, elle est mise, alors qu'elle ne vient pas de là-bas, mais elle est mise avec le baraquement des familles. Il y a, à ce moment-là, à Auschwitz, toute une partie qui ne va pas durer très longtemps, mais qui est réservée aux familles. De quoi je parle? Eh bien, il y avait un autre camp qui servait de vitrine aux nazis, qui s'appelait Térézine, qui servait de vitrine pour montrer, genre, nous, on est très sympa avec les prisonniers. Alors, Térézine, en fait, c'était un camp qui était à côté de Prague, mais lorsqu'il a été fermé, eh bien, on a mis toutes les personnes qui étaient à Térézine dans cette partie du camp à Auschwitz pendant quelques mois. Et donc là-bas, il y avait des conditions beaucoup plus favorables puisque les familles étaient ensemble. Il n'y avait pas de travail forcé pendant la journée. Donc, c'était vraiment un peu les vacances, si je puis dire, à Auschwitz pour ceux qui étaient là-bas. À ce moment-là, les responsables de cette partie du camp se sont dit « On va essayer de cacher à nos enfants le plus possible l'univers du camp. » Dina, ma fameuse Dina, Dina Gottlieb, elle était étudiante en peinture à l'école des Beaux-Arts. Donc, elle s'est dit, je vous propose, donnez-moi de quoi un minimum, mais je vais essayer de peindre une fresque sur le mur du baraquement des enfants. Et elle commence à peindre une prairie, des petits moutons, des fleurs. Hamoud. Et au milieu de son œuvre, elle sent une pression amicale derrière elle. Et tout d'un coup, elle sent qu'on est en train de lui tirer comme ça la jupe. Slicha, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Elle se retourne et elle voit tous les enfants du baraquement. Et tous les enfants la regardent tendrement et lui disent « Hé, s'il te plaît, tu peux nous dessiner Blanche-Neige et les sept nains ?» Et oui, le film de Disney était déjà sorti depuis quelques années, donc tout le monde connaissait. Et donc, ben, Dina, qui connaissait aussi, elle a dit « pas de problème ». Et elle s'est mise à dessiner Blanche-Neige qui danse avec Simplet et tous les autres nains qui la regardent. Et à tel point que les enfants ont monté une pièce de théâtre dans ce baraquement qui s'appelait Blanche-Neige à Auschwitz. Et tout d'un coup, quelques semaines plus tard, un convoi est arrivé. Le train s'est arrêté au camp, les wagons se sont ouverts et l'impensable s'est produit. Tout le monde était bouche bée. Mais encore plus, les membres du baraquement, des baraquements que je vous ai expliqué, les gens de Térézine, le camp des familles, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Les enfants étaient... Et les gens ont commencé à compter. Ils ont dit « Non, c'est pas possible !» 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ils sont là. Venaient de descendre du train les sept nains d'Auschwitz. Cette photo, c'est la photo de la famille Ovitz. Perla, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est elle. La famille Ovitz, c'est une famille de 7 frères et sœurs qui sont tous nains. Ils ont évidemment subi des expériences médicales terribles. Vous imaginez, 7 frères et sœurs nains. Mais ces expériences les ont fait survivre à la Shoah. On les a gardés en vie. Et voilà que Perla nous donne un chiour extraordinaire sur l'Emma. Perla, en 2001, fête son 80e anniversaire. Elle chante, car elle était chanteuse, toute sa vie elle a chanté. Et après les titres de son répertoire et après quelques gâteaux d'anniversaire, on commence à parler serious business. Et évidemment, les questions sur Auschwitz arrivent. Et je voudrais vous citer ces paroles pour terminer notre chiot. Perla nous dit la chose suivante. Je ne peux pas comprendre pourquoi la Shoah a eu lieu. Je ne comprends pas comment Haïbisher, Ribbono shel Olam, a vu ses enfants mourir dans les flammes et n'est pas intervenu. Certains disent que c'est à cause de nos péchés. J'ai toujours été pieuse, mes parents, mes grands-parents, et j'ai un profond respect pour les rabbins. Et pourtant, je ne pourrais jamais accepter ces explications venant de ces rabbins. Ni moi, ni mes parents, ni mes grands-parents, ni aucun de mes amis, nous n'avons jamais rien fait qui méritait ce genre de punition. Nous sommes trop petits pour comprendre la volonté du Créateur. Mais je vais vous dire une chose. Je me suis toujours posé la question, pourquoi moi et ma famille, nous étions des nains? Eh bien, ma réponse est très simple. Si j'avais été une jeune juive d'1m60, eh bien, j'aurais très certainement été massacrée comme des centaines de milliers d'autres jeunes juives d'1m60. Donc, si je devais demander pourquoi je suis naine de naissance, eh bien, je dirais que c'est le seul moyen que Dieu a trouvé pour me maintenir en vie. Maintenant que je suis resté en vie, eh bien, c'est à mon tour de donner aux autres le moyen de trouver leur moyen de se rattacher à Dieu. C'est de cela qu'on parle lorsqu'on parle de la Shoah. Lorsqu'on parle de la Shoah en 2020, la question n'est plus dans le passé. La question est de savoir comment nous, qui portons la flamme de ceux qui se sont éteints, et de ceux qui ont continué. Comment est-ce que nous, nous faisons en sorte que la connexion entre nous et entre nous, eh bien, reste une connexion en 5G. À ce moment-là, eh bien, posez-vous la question. Pourquoi est-ce qu'on a l'habitude de faire la Hiloula des Tzadikim et pas la Askara des Tzadikim ? Eh bien, parce qu'on comprend très bien que ceux qui sont partis ne sont pas partis, mais nous servent de lanterne pour éclairer un chemin dans lequel j'ai envie, moi également, de m'inscrire. Et c'est la raison pour laquelle, et je terminerai par là, c'est la raison pour laquelle, je ne me rappelle plus si je l'ai déjà dit ou pas, mais de toute façon, je l'aurais dit à Yom HaShoah, donc il faut que je le dise. C'est la raison pour laquelle le symbole dans le judaïsme, lorsqu'on vient se recueillir sur la tombe d'un proche, eh bien notre tradition est d'y mettre une pierre. Pas des fleurs, comme on peut trouver chez les nations. Nous pensons que la neshama, que l'âme est éternelle, alors que ces fleurs vont faner dans 3 jours. La pierre reste. C'est bien, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que rock, stone, en hébreu, se dit even. Even, ce sont les initiales des mots av, ben, neched. Le papa, le fils, le petit-fils. Lorsque je viens mettre une pierre sur la tombe de mes proches, je viens leur dire « Le chemin que vous avez commencé ne s'est pas arrêté avec vous. Il continue à travers moi et il continuera à travers tout ce que je vais laisser aux autres. » En français, on a appelé ce cours Yom HaShoah, le jour du choix. Shoah, choix, c'était pour faire le jeu de mots. La question est de savoir, c'est mon choix aujourd'hui. Est-ce que je vais regarder Yom HaShoah comme étant un jour où je me morfonds dans le passé, où j'utilise cette journée pour me dire maintenant, j'ai tellement de choses à transmettre. On m'a donné tellement de choses. C'est à moi de continuer. Vous savez, les rescapés ont mis beaucoup de temps à parler. Ils ont mis beaucoup de temps à parler, très souvent parce qu'il n'y avait pas d'oreille pour écouter. Aujourd'hui, nous sommes les oreilles qui ont écouté leurs histoires. C'est à nous de devenir maintenant les bouches qui vont continuer à les transmettre. Et vous savez quoi ? Maintenant qu'on est sûr qu'il n'y aura plus de Shoah, eh bien, c'est à notre tour de raconter nos histoires de simcha, nos histoires de construction. C'est exactement, et là, c'est mon petit message personnel, c'est exactement ce que j'ai vécu lorsque j'ai envoyé le document, le diplôme, je sais pas, le document que j'ai reçu de la mairie de Jérusalem pour la naissance de mon premier enfant, ma première fille. Il y avait marqué « Mazal Tov, votre fille est née à Jérusalem ». Et j'ai envoyé ça à ma grand-mère en disant « Voilà, regarde ». Regarde par tout ce que toi, le peuple juif, est passé, eh bien, ton arrière-petite-fille est née à Jérusalem. C'est à nous d'écrire la nouvelle page de l'histoire du peuple juif. Nous avons été les oreilles, nous devenons maintenant la bouche. Et grâce à cela, eh bien, ensemble, nous pourrons redevenir que Ish Echad, Belev Echad, tous ensemble, pour créer notre destinée. Bon, la semaine prochaine, ce sera un peu plus joyeux. On parlera de Yom HaAtzmaout. Falafel on you. Voilà. Amen va amen. Amen va amen. Alors à très bientôt les amis. Chazak u baruch.